Chapitre 3. Deux mois plus tard, Frédéric, débarqué un matin rue Coquéron, songea immédiatement à faire sa grande visite. Le hasard l'avait servi. Le père Roch était venu lui apporter un rouleau de papier en le priant de les remettre lui-même chez M. d'Ambreuse. Et il accompagnait l'envoi d'un billet décacheté où il présentait son jeune compatriote. Madame Moreau parut surprise de cette démarche. Frédéric dissimula le plaisir qu'elle lui causait. M. d'Ambreuse s'appelait de son vrai nom le comte d'Ambreuse, mais dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie, et l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un clerc et laborieux comme un auvergnat. Il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député, pair de France un de ses jours. Complaisant du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac, et dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre gauche. Sa femme, la jolie Madame d'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg et laissait croire que M. d'Ambreuse pouvait encore se repentir et rendre des services. Le jeune homme était troublé en allant chez eux. « J'aurais mieux fait de prendre mon habit. On m'invitera sans doute au bal pour la semaine prochaine. Que va-t-on me dire ?» L'aplomb lui revint en songeant que M. d'Ambreuse n'était qu'un bourgeois, et il sauta gaillardement de son cabriolet sur le trottoir de la rue d'Anjou. Quand il eut poussé une des deux portes cochères, il traversa la cour, gravit le perron et entra dans un vestibule pavé en marbre de couleur. Un nouvel escalier droit, avec un tapis rouge à baguettes de cuivre, s'appuyait contre les hautes murailles en stuc luisant. Il y avait, au bas des marches, un bananier dont les feuilles larges retombaient sur le velours de la rampe. Deux candélabres de bronze tenaient des globes de porcelaine suspendus à des chaînettes. Les soupiraux des calorifères béants exhalaient un air lourd, et l'on n'entendait que le tic-tac d'une grande horloge dressée à l'autre bout du vestibule sous une panoplie. Un timbre sonna, un valet parut, et introduisit Frédéric dans une petite pièce où l'on distinguait deux coffres-forts avec des casiers remplis de cartons. M. d'Ambreuse écrivait au milieu sur un bureau à cylindres. Il parcourut la lettre du père Roch, ouvrit avec son canif la toile qui enfermait les papiers et les examina. De loin, à cause de sa taille mince, il pouvait sembler jeune encore. Mais ses rares cheveux blancs, ses membres débiles et surtout la pâleur extraordinaire de son visage accusaient un tempérament délabré. Une énergie impitoyable reposait dans ses yeux glauques, plus froids que des yeux de verre. Il avait les pommettes saillantes et des mains à articulations noueuses. Enfin, s'étant levé, il adressa au jeune homme quelques questions sur des personnes de leur connaissance, sur nos gens, sur ses études. Puis il le congédia en s'inclinant. Frédéric sortit par un autre corridor et se trouva dans le bas de la cour auprès des remises. Un coupé bleu, attelé d'un cheval noir, stationnait devant le perron. La portière s'ouvrit. Une dame y monta, et la voiture, avec un bruit sourd, se mit à rouler sur le sable. Frédéric, en même temps qu'elle, arriva de l'autre côté sous la porte cochère. L'espace n'étant pas assez large, il fut contraint d'attendre. La jeune femme, penchée en dehors du vasistas, parlait tout bas au concierge. Il n'apercevait que son dos couvert d'une mante violette. Cependant, il plongeait dans l'intérieur de la voiture, tendue de reps bleus, avec des passementeries et des effilés de soie. Les vêtements de la dame l'emplissaient. Il s'échappait de cette petite boîte capitonnée un parfum d'iris, et comme une vague senteur d'élégance féminine. Le coucher, l'achat, les rênes, le cheval frôla la borne brusquement, et tout disparut. Frédéric s'en revint à pied en suivant les boulevards. Il regrettait de n'avoir pu distinguer Madame d'Ambreuse. Un peu plus haut que la rue Montmartre, un embarras de voitures lui fit tourner la tête. Et de l'autre côté, en face, il lut, sur une plaque de marbre, Jacques Arnoux. Comment n'avait-il pas songé à elle plus tôt? La faute venait de Delaurier, et il s'avança vers la boutique. Il n'entra pas cependant, il attendit qu'elle parût. Les hautes glaces transparentes offraient au regard, dans une disposition habile, des statuettes, des dessins, des gravures, des catalogues, des numéros de l'art industriel, et les prix de l'abonnement étaient répétés sur la porte, que décoraient à son milieu les initiales de l'éditeur. On apercevait contre les murs de grands tableaux dont le vernis brillait, puis, dans le fond, deux bahuts chargés de porcelaine, de bronze, de curiosités alléchantes. Un petit escalier les séparait, fermé dans le haut par une portière de moquette, et un lustre en vieux saxe, un tapis vert sur le plancher, avec une table en marqueterie, donnait à cet intérieur plutôt l'apparence d'un salon que d'une boutique. Frédéric faisait semblant d'examiner les dessins. Après des hésitations infinies, il entra. Un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Mais si la commission pouvait se transmettre... « Non, je reviendrai, » répliqua doucement Frédéric. Les jours suivants furent employés à se chercher un logement, et il se décida pour une chambre au second étage, dans un hôtel garni, rue Saint-Hyacinthe. En portant sous son bras un buvard tout neuf, il se rendit à l'ouverture des cours. 300 jeunes gens nu-tête emplissaient un amphithéâtre où un vieillard en robe rouge dissertait d'une voix monotone. Des plumes grinçaient sur le papier. Il retrouvait dans cette salle l'odeur poussiéreuse des classes, une chair de forme pareille, le même ennui. Pendant 15 jours, il y retourna. Mais on n'était pas encore à l'article 3, qu'il avait lâché le code civil, et il abandonna les institutes à la summa divisio personarum. Les joies qu'il s'était promises n'arrivaient pas, et quand il eut épuisé un cabinet de lecture, parcouru les collections du Louvre, et plusieurs fois de suite été au spectacle, il tomba dans un désœuvrement sans fond. 1000 choses nouvelles ajoutaient à sa tristesse. Il lui fallait compter son linge et subir le concierge, rustre à tournure d'infirmier, qui venait le matin retaper son lit, en sentant l'alcool et en grommelant. Son appartement, orné d'une pendule d'albâtre, lui déplaisait. Les cloisons étaient minces. Il entendait les étudiants faire du punch, rire, chanter. Là, de cette solitude, il rechercha un de ses anciens camarades nommé Baptiste Martinon, et il le découvrit dans une pension bourgeoise de la rue Saint-Jacques, bûchant sa procédure devant un feu de charbon de terre. En face de lui, une femme en robe d'indienne reprisait des chaussettes. Martinon était ce qu'on appelle un fort bel homme, grand, joufflu, la physionomie régulière et des yeux bleuâtres à fleur de tête. Son père, un gros cultivateur, le destinait à la magistrature, et voulant déjà paraître sérieux, il portait sa barbe taillée en collier. Comme les ennuis de Frédéric n'avaient point de cause raisonnable, et qu'il ne pouvait targuer d'aucun malheur, Martinon ne comprit rien à ses lamentations sur l'existence. Lui, il allait tous les matins à l'école, se promenait ensuite dans le Luxembourg, prenait le soir sa demi-tasse au café, et avec 1500 francs par an et l'amour de cette ouvrière, il se trouvait parfaitement heureux. « Quel bonheur !» exclama intérieurement Frédéric. Il avait fait à l'école une autre connaissance, celle de M. de Sisy, enfant de grande famille, et qui semblait une demoiselle à la gentillesse de ses manières. M. de Sisy s'occupait de dessin, aimait le gothique. Plusieurs fois, ils allèrent ensemble admirer la Sainte-Chapelle et Notre-Dame. Mais la distinction du jeune patricien recouvrait une intelligence des plus pauvres. Tout le surprenait. Il riait beaucoup à la moindre plaisanterie et montrait une ingénuité si complète que Frédéric le prit d'abord pour un farceur et finalement le considéra comme un nigaud. Les épanchements n'étaient donc possibles avec personne et il attendait toujours l'invitation des Dambreuses. Au jour de l'an, il leur envoya des cartes de visite, mais il n'en reçut aucune. Il était retourné à l'art industriel. Il y retourna une troisième fois, et il vit enfin Arnaud qui se disputait au milieu de 5 à 6 personnes et répondit à peine à son salut. Frédéric en fut blessé. il n'en chercha pas moins comment parvenir jusqu'à elle. Il eut d'abord l'idée de se présenter souvent pour marchander des tableaux. Puis, il songea à glisser dans la boîte du journal quelques articles très forts, ce qui amènerait des relations. Peut-être valait-il mieux courir droit au but, déclarer son amour. Alors il composa une lettre de 12 pages, pleine de mouvements lyriques et d'apostrophes, mais il la déchira et ne fit rien, ne tenta rien, immobilisé par la peur de l'insuccès. Au-dessus de la boutique d'Arnoux, il y avait au premier étage 3 fenêtres, éclairées chaque soir. Des ombres circulaient par derrière. Une, surtout, c'était la sienne, et il se dérangeait de très loin pour regarder ses fenêtres et contempler cette ombre. Une négresse qu'il croisa un jour dans les Tuileries, tenant une petite fille par la main, lui rappela la négresse de Madame Arnoux. Elle devait y venir comme les autres. Toutes les fois qu'il traversait les Tuileries, son cœur battait, espérant la rencontrer. Les jours de soleil, il continuait sa promenade jusqu'au bout des Champs-Élysées. Des femmes, nonchalamment assises dans des calèches et dont les voiles flottaient au vent, défilaient près de lui, au pas ferme de leurs chevaux, avec un balancement insensible qui faisait craquer les cuirs vernis. Les voitures devenaient plus nombreuses, et se ralentissant à partir du rond-point, elles occupaient toute la voie. Les crinières étaient près des crinières, les lanternes près des lanternes. Les étriers d'acier, les gourmettes d'argent, les boucles de cuivre jetaient çà et là des points lumineux entre les culottes courtes, les gants blancs et les fourrures qui retombaient sur le blason des portières. Il se sentait comme perdu dans un monde lointain. Ses yeux erraient sur les têtes féminines, et de vagues ressemblances amenaient à sa mémoire Madame Arnoux. Il se la figurait, au milieu des autres, dans un de ces petits coupés pareils aux coupés de Madame d'Ambreuse. Mais le soleil se couchait, et le vent froid soulevait des tourbillons de poussière. Les cochers baissaient le menton dans leurs cravates, les roues se mettaient à tourner plus vite, le macadam grinçait, et tous les équipages descendaient au grand trot la longue avenue, en se frôlant, se dépassant, s'écartant les uns des autres, puis, sur la place de la Concorde, se dispersaient. Derrière les Tuileries, le ciel prenait la teinte des ardoises. Les arbres du jardin formaient de masses énormes, violacées par le sommet. Les becs de gaz s'allumaient, et la Seine, verdâtre dans toute son étendue, se déchirait en moire d'argent contre les piles des ponts. Il allait dîner, moyennant 43 sols de cachet, dans un restaurant rue de la Harpe. Il regardait avec dédain le vieux comptoir d'acajou, les serviettes tachées, l'argenterie crasseuse et les chapeaux suspendus contre la muraille. Ceux qui l'entouraient étaient des étudiants comme lui. Ils causaient de leurs professeurs, de leurs maîtresses. Il s'inquiétait bien des professeurs. Est-ce qu'il avait une maîtresse? Pour éviter leur joie, il arrivait le plus tard possible. Des restes de nourriture couvraient toutes les tables. Les deux garçons fatigués dormaient dans des coins, et une odeur de cuisine, de quinquet et de tabac emplissait la salle déserte. Puis il remontait lentement les rues. Les réverbères se balançaient, en faisant trembler sur la boue de longs reflets jaunâtres. Des ombres glissaient au bord des trottoirs, avec des parapluies. Le pavé était gras, la brume tombait, et lui semblait que les ténèbres humides, l'enveloppant, descendaient indéfiniment dans son cœur. Un remords le prit. Il retourna au cours, mais comme il ne connaissait rien aux matières élucidées, des choses très simples l'embarrassèrent. Il se mit à écrire un roman intitulé « Silvio, le fils du pêcheur ». La chose se passait à Venise. Le héros, c'était lui-même. L'héroïne, Madame Arnoux. Elle s'appelait Antonia. Et pour la voir, il assassinait plusieurs gentilshommes, brûlait une partie de la ville et chantait sous son balcon ou palpitait à la brise les rideaux en damas rouge du boulevard Montmartre. Les réminiscences trop nombreuses dont il s'aperçut le découragèrent. Il n'alla pas plus loin, et son désœuvrement redoubla. Alors il supplia des lauriers de venir partager sa chambre. Il s'arrangerait pour vivre avec ses 2000 francs de pension. Tout valait mieux que cette existence intolérable. Des lauriers ne pouvaient encore quitter Troyes. Il l'engageait à se distraire et à fréquenter Sénécal. Sénécal était un répétiteur de mathématiques, homme de forte tête et de conviction républicaine, un futur Saint-Just, disait Leclerc. Frédéric avait monté 3 fois ces 5 étages, sans en recevoir aucune visite. Il n'y retourna plus. Il voulut s'amuser. Il se rendit au bal de l'opéra. Ses gaietés tumultueuses le glaçaient dès la porte. D'ailleurs, il était retenu par la crainte d'un affront pécuniaire, s'imaginant qu'un souper avec un domino entraînait à des frais considérables était aucune grosse aventure. Il lui semblait cependant qu'on devait l'aimer. Quelquefois, il se réveillait le cœur plein d'espérance, s'habillait soigneusement comme pour un rendez-vous, et il faisait dans Paris des courses interminables. À chaque femme qui marchait devant lui ou qui s'avançait à sa rencontre, il se disait « La voilà ». C'était chaque fois une déception nouvelle. L'idée de Madame Arnoux fortifiait ses convoitises. Il la trouverait peut-être sur son chemin. Et il imaginait, pour l'aborder, des complications du hasard, des périls extraordinaires dont il la sauverait. Ainsi, les jours s'écoulaient dans la répétition des mêmes ennuis et des habitudes contractées. Il feuilletait des brochures sous les arcades de l'Odéon, allait lire la revue des Deux Mondes au café, entrait dans une salle du Collège de France, écoutait pendant 1 heure une leçon de chinois ou d'économie politique. Toutes les semaines, il écrivait longuement à Deslauriers, dînait de temps en temps avec Martinon, voyait quelquefois M. de Sisy. Il loua un piano et composa des valses allemandes. Un soir, au théâtre du Palais-Royal, il aperçut, dans une loge d'avant-scène, Arnoux près d'une femme. Était-ce elle ? L'écran de taffetas vert, tiré au bord de la loge, masquait son visage. Enfin la toile se leva, l'écran s'abattit. C'était une longue personne, de 30 ans environ, fanée, et dont les grosses lèvres découvraient, en riant, des dents splendides. Elle causait familièrement avec Arnoux, et lui donnait des coups d'éventail sur les doigts. Puis, une jeune fille blonde, les paupières un peu rouges comme si elle venait de pleurer, s'assit entre eux. Arnoux resta dès lors à demi penché sur son épaule, en lui tenant des discours qu'elle écoutait sans répondre. Frédéric s'ingénia à découvrir la condition de ces femmes, modestement habillées de robes sombres à col plat rabattu. À la fin du spectacle, il se précipita dans les couloirs. La foule les remplissait. Arnoux, devant lui, descendait l'escalier, marche à marche, donnant le bras aux 2 femmes. Tout à coup, un bec de gaz l'éclaira. Il avait un crêpe à son chapeau. Elle était morte, peut-être. Cette idée tourmenta Frédéric si fortement qu'il courut le lendemain à l'art industriel et, payant vite une des gravures étalées devant la montre, il demanda au garçon de boutique comment se portait M. Arnoux. Le garçon répondit « Mais très bien ». Frédéric ajouta en pâlissant « Et madame ?»« Madame aussi ?» Frédéric oublia d'emporter sa gravure. L'hiver se termina. Il fut moins triste au printemps, se mit à préparer son examen, et l'ayant subi d'une façon médiocre, partit ensuite pour Nogent. Il n'alla point à Troyes voir son ami, afin d'éviter les observations de sa mère. Puis, à la rentrée, il abandonna son logement et prit, sur le quai Napoléon, 2 pièces qu'il meubla. L'espoir d'une invitation chez les Dambreuses l'avait quitté. Sa grande passion pour Madame Arnoux commençait à s'éteindre.